Mon voyage à moi commence dans un jardin. C'est le jardin de mon enfance. Et je dois m'échapper. Alors c'est très tôt, à l'aube. C'est même avant l'aube. D'ailleurs, ça se passe dans l'aube, en Champagne. C'est un paysage à corbeaux. Mais les corbeaux, on les voit pas puisqu'il fait encore nuit. Je dois traverser le jardin sans écraser les dahlias de la cousine de ma mère et les glaïeuls de la belle-sœur de mon père, c'est-à-dire ma tante. Alors c'est la champagne pouilleuse, hein, il faut s'imaginer. C'est très difficile de s'en extraire. À chaque pas qu'on fait, on emporte 2 kilos de terre grasse à betterave sous ses pieds. C'est épuisant. Et là, je suis à peu près à la moitié du jardin lorsque, dans une sorte de halo de clarté laissé par la lune s'en allant, j'aime assez bien cette phrase, je vois arriver ma mère sur un poney. Le poney a de chaque côté des flancs des paniers remplis de victuailles et ma mère me dit « On ne manquera de rien, j'ai pensé à tout. » Et là, je réalise que je n'ai absolument pas envie de partir avec ma mère. Donc j'essaye d'accélérer, seulement ça patine. En plus, j'essaye d'attraper la petite poignée de porte du bout du jardin, mais elle est rouillée, j'arrive pas à sortir, ça commence à m'énerver. D'autant plus que maintenant le poney se fourre dans mes jambes comme un chat. C'est vraiment agaçant, j'essaye de le repousser, mais il a le museau gluant, donc j'ai pas de prise. Au bout d'un moment, ça m'agace, je le tire par la queue pour le faire partir en arrière, sauf que la queue me reste entre les mains. Et par un effet ressort qui se produit, le poney se met à décoller avec ma mère dessus et ils se mettent à tournoyer au-dessus de ma tête dans le ciel et ma mère me crie « Si tu savais ce que j'endure avec toi, tu seras bien débarrassé quand je serai plus là !» Et là, je me dis qu'il est vraiment temps que je m'en aille. Bien. Maintenant, on est devant une maison bourgeoise, donc c'est pas chez mes parents. Il y a un grand perron avec 2 grandes portes à battants, et sur le perron se trouve le général de Gaulle, le nez tourné vers l'avenir. Et il s'adresse à moi comme s'il faisait un discours à la terre entière.
« Le Hans de Schnockenor, il a tout ce qu'il veut, et ce qu'il a, il n'en veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas. »
Et à ce moment-là, les 2 portes s'ouvrent, il y a une sorte de vieux tapis tout mité qui se déroule à mes pieds, la maison se transforme en une sorte de longère que je dois longer, avec de chaque côté des portes qui s'ouvrent, et des soldats du premier dragon qui me saluent au garde-à-vous en passant.
Le Hans de Schnockenor, il a tout ce qu'il veut, et ce qu'il a, il n'en veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas, le Hans de Schnockenor.
Alors, il y a De Gaulle qui essaye de me rattraper à cheval, mais il est lui-même le cheval. D'ailleurs, il tire un chariot, et il est lui-même le chariot, il a des roues, et dans le chariot se trouve ma mère, qui porte le poney qu'elle caresse comme un chat. Et tous les deux me disent, si tu veux partir, prends tes affaires. Bon, alors maintenant, on est devant une armoire normande en merisier. Moi, personnellement, j'ai jamais su ce que c'était que des merises. Les poignées de l'armoire sont en noyau, et quand j'essaie de l'ouvrir par l'entrefilet de l'entrebâillement de l'entre-deux-portes, j'aperçois à l'intérieur de l'armoire un cadavre à tête de chien qui me fixe avec un œil vitreux. J'essaye immédiatement de refermer la porte, mais je le sens qui pousse derrière. Un combat sans merci se joue entre nous et au bout d'un moment, c'est lui qui pousse le plus fort, les portes s'ouvrent, je tombe en arrière avec le cadavre qui se colle à moi comme du velcro. Ah, quand je le décolle d'un côté, ah, il se recolle de l'autre. C'est vraiment agaçant ce truc, d'autant plus qu'il est lourd, il est moite et il essaye de m'embrasser. Bon, je sais pas si tu connais, c'est comme une plante des Philippines ou de Madagascar. C'est une plante anti-rat. La plante, tu la mets à la sortie des maisons, et lorsque le rat passe, il s'accroche dans la plante et il peut plus se défaire. Je crois. Bon. Mais moi, je suis pas un rat, puisque j'ai un Duffelcoat. Alors, sans me faire remarquer, je déboutonne le Duffelcoat, je sors subrepticement du Duffelcoat, et par un mouvement brownien au niveau du bassin, j'envoie valser le Duffelcoat avec le cadavre, qui se met à glisser sur le sol, qui est maintenant comme une patinoire, et ils vont taper dans le coin d'une cuisinière en fonte, et du coup, le cadavre se met à tournoyer sur lui-même avec un œil qui clignote. Et j'ai l'impression que c'est l'œil gauche de mon père vert. L'œil vert de mon père gauche. Enfin, je veux dire, l'œil vert et gauche de mon père qui fait pas de politique. Et à ce moment-là, me revient en tête un proverbe qui dit « Faut battre son père pendant qu'il est chaud ». Bref, j'en suis là dans mes réflexions lorsque tout s'accélère. Je dois emporter toutes mes affaires. Je fouille dans des armoires, dans des placards, dans des tiroirs. Je dois emporter tous mes habits depuis ma plus tendre enfance, toutes les chaussures que j'ai portées, les collections de timbres, de marque-pages, d'animaux préhistoriques miniatures, de jeux de société dépareillés, de cartes, tous les livres que j'ai écrits alors que je suis encore tout enfant. Je dois charger ça dans des cartons et sortir le plus vite possible avant que les autres se réveillent. Sauf qu'à chaque fois que j'arrive à une porte, la porte rétrécit. Et même mes cartons augmentent de volume. Oh, ça devient incroyable ce truc, mais j'arrive pas à me sortir. Heureusement, j'aperçois une porte horizontale. J'arrive à me glisser par le trou de la porte, comme une sorte de gros boudin de guimauve, et j'arrive tant bien que mal à dévaler un escalier tout vermoulu, ch'douc, 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 qui sent l'araignée qui aurait bu du cidre. Seulement quand j'arrive au pied de l'escalier, je m'aperçois qu'en fait c'est un escalier qui remonte en descendant, et il descend en montant. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne sais plus du tout où j'en suis. Heureusement, ma tête heurte une porte. La porte s'ouvre et je me retrouve à la salle des ventes de Troyes. Dans l'aube. D'ailleurs, on est trois. Devant nous, il y a un vélo de facteur. Alors, il est très intéressant parce qu'il a un panier devant et un porte-bagages derrière. C'est exactement ce qu'il me faut. Juste à côté, il y a un commissaire-priseur. Un vieux bonhomme tout ratatiné qui est en train de mordiller sa pipe. De temps en temps, il crache des morceaux de dents par terre. Il a devant lui un petit guéridon de marbre blanc tout lisse. Et le voilà qui tape avec sa pipe sur le guéridon et la vente démarre à 50 francs. Ouais, seulement moi, je ne sais pas si c'est des anciens francs ou des nouveaux francs. Donc timidement, je lève la main pour vérifier. Et à ce moment-là, le commissaire-priseur veut taper avec sa pipe sur le guéridon. Il rate le guéridon, il tombe par terre, il se casse trois dents. Et le prix baisse. Alors je tente à nouveau l'opération et la même chose se passe. À chaque fois que je lève la main, le prix baisse. Alors les autres essayent de me concurrencer, mais ils sont manchots. Ils deviennent rouges, rouges comme des furoncles prêts à éclater. À la fin, le commissaire-priseur s'énerve tellement, il tape de toutes ses forces sur le guéridon, il casse sa pipe et j'emporte le vélo pour une part de flanc symbolique. Maintenant, je suis sur mon vélo, j'ai chargé tous les cartons, je ne vois absolument pas la route et je dois passer un carrefour très dangereux et je ne sais pas si le feu est vert, clignotant ou rouge. Donc, je passe à l'oreille. Je perçois un bruit étrange. Je dois être attaqué par un monstre qu'aurait avalé un rasoir électrique. À un moment donné, il me heurte. Je fais un demi-tour sur moi-même. Un de mes cartons m'échappe. Il s'éventre par terre et toutes mes chaussures s'alignent depuis mes derniers pas jusqu'au premier à l'infini. Et j'entends une voix qui me dit « Où tu en es dans ta vie ?» Je me retourne et j'aperçois un curé sur un solex. Il essaye de retrouver son équilibre sur une plaque ponte à mousson en fonte, verglacée. Moi, j'essaye de lui répondre le plus sincèrement possible, sauf que ma langue s'allonge. Et ma langue vient s'accrocher dans son chapelet, Alors moi, je tire sur ma langue, et lui, il essaye de récupérer sauf qu'à un moment donné, son chap éclate, toutes les perles s'envolent, et il est aspiré par l'égout avec le solex. Il n'a plus que les pieds qui dépassent. J'entends à l'intérieur de l'égout comme des psaumes enflés. Alors moi j'essaye de le tirer par les pieds, mais les chaussettes me restent dans les mains. Une odeur pestilentielle s'échappe de l'égout. J'en profite pour m'échapper. Je reprends mon vélo et je repars le plus vite possible. Seulement maintenant, mon vélo boite. Ah bah oui. Et alors curieusement, à chaque fois que je passe devant une maison, par un effet dynamo que je ne saurais pas vous expliquer, ça rallume les lumières des maisons. Il est quand même 6 heures du matin et donc les gens sont réveillés en sursaut. Ils ouvrent des grands yeux, ébahis comme des hiboux réveillés en plein jour. Dans leurs yeux, il y a des points d'interrogation. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Et là, je ne sais plus du tout pourquoi je pars. Ah si, ça y est, ça me revient. Si, c'est à cause des repas de famille. Oui, chez nous, les repas de famille, ça n'en finit pas. Et à la fin de chaque repas de famille, il faut que je raconte des histoires en mêlant des gens de la famille. Et cette fois-là, je me souviens, ça n'a pas raté. Il a fallu que je raconte, je crois que j'ai raconté l'histoire du parapluie. Bon, je vous la raconte en la résumant. Hein. C'est l'oncle... Lucien et Tante Thérèse qui s'en vont à la grande braderie de Romilly-sur-Seine. Alors, la braderie de Romilly-sur-Seine, il pleut toujours. Hein, et alors, Tante Thérèse et l'oncle Lucien sont complètement trempés. Et au bout d'un moment, Tante Thérèse aperçoit dans les mains de l'oncle Lucien un parapluie fermé. Alors elle lui dit, mais Lucien, mais pourquoi tu n'ouvres pas ce maudit parapluie? Tu vois bien qu'on est trempés comme des grenouilles. Et lui répond, écoute Thérèse, il marche pas le parapluie. Tu vois, les baleines sont tordues, le cliquet ne fonctionne plus, il a jamais marché ce parapluie. Alors elle lui dit, mais alors pourquoi tu l'as amené s'il marche plus? Et lui dit, dis donc Thérèse, je pouvais quand même pas savoir qu'il allait pleuvoir. Bon alors là, gros succès garanti. On m'a donné des pièces pour aller faire des tours de manège avec mon cousin. Et je croyais être tranquille lorsque, au moment de sortir, on m'a demandé une deuxième histoire. Alors j'en avais toujours une en réserve, je crois que j'ai raconté l'histoire du cousin Gaston. Bon, c'est le cousin Gaston, il a un petit garçon de 3 ans. Et donc il dit à sa mère, garde mon fils, je vais au marché, j'en ai pour une heure. Une heure après, le cousin Gaston revient et il voit le gamin en pleurs, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Et le gamin il dit, c'est la grand-mère qui m'a tapé. Alors là, le cousin Gaston prend un bâton, il va voir la grand-mère et devant elle, il commence à se donner des grands coups de bâton à lui-même. Et la grand-mère lui dit, mais t'es complètement frappé, pourquoi tu te frappes toi-même? Et lui répond, écoute, toi t'as tapé mon fils, alors moi je tape le tien. Et pan, et il se donne des grands coups de bâton. Bon, l'histoire a super bien marché aussi. Sauf que on m'a demandé une troisième histoire et j'aurais pas dû, j'en avais pas. Enfin, j'avais le bout de la queue d'une, mais vous savez ce que c'est, l'appât du gain, la reconnaissance. Je ne sais plus ce que j'ai raconté, je crois que c'est une histoire de crocodile. Je crois que ça se passait dans les marais, c'était un crocodile, mais il était à fleur d'eau. On ne savait pas trop si c'est un crocodile ou un tronc d'arbre. Et il s'approchait de la berge où il y avait un lièvre, mais le lièvre ne savait pas si c'était un tronc d'arbre ou un croc. Enfin, toujours est-il que ça a jeté un froid. Il y a eu un silence terrible à la fin de l'histoire. Et mon oncle préféré a dit « Il ira loin » ou bien « Il a été trop loin, je ne sais plus ». Toujours est-il que ça a été la panique. Le vieux Raymond, qui était en train d'ouvrir des huîtres pour le dessert, s'est planté le couteau dans la main, il a fallu l'emmener aux urgences à l'hôpital. Il y a une tante qui s'appelle Odile. Elle s'est vexée, elle s'est enfermée dans les toilettes avec son sac à main en disant qu'elle ne reviendrait plus dans cette famille. Et le beau-frère, il a jeté son ballon de rouge sur la tapisserie préférée de ma mère, des biches aux abois au crépuscule dans les tombistres. Je me suis payé une honte tellement grande que je suis parti sur la pointe des pieds en me disant je ne reviendrai plus jamais dans les repas de famille. Et je suis parti et je ne suis jamais revenu. Mais encore aujourd'hui, ça me revient comme des relents de regrets, tu sais, des choses que tu aurais faites a priori et que tu regretterais a posteriori, tu vois. Des trucs, je me dis, mais non, pourquoi j'ai raconté cette histoire de lièvre? Mais pourquoi j'ai raconté ce truc de crocodile? J'aurais jamais dû, tu vois. Je sais pas si ça te le fait, mais moi, ça me le fait sans arrêt.